Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Pour la deuxième année consécutive, la France, vous le savez, commémore en ce 10 mai l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Nous en parlerons évidemment ensemble dans quelques minutes. Vous êtes quelques-uns, peu nombreux, faut le dire, à souhaiter réagir justement à cette journée de commémoration, au travail de mémoire évidemment qu'il faut faire autour de cette période, notamment la traite négrière transatlantique qui a tout de même duré 4 siècles, une période de l'histoire peu connue du grand public. Alors comment favoriser justement ce travail de mémoire? Nous allons en parler ensemble dans quelques minutes. Vous nous rejoignez évidemment, toujours au même numéro, 01 53 92 64 40, 33 1 53 92 64 40. Si vous êtes à l'étranger, mais d'abord, avant de lancer le débat, nous retrouvons Dalila Beritan d'RFI, qui présente donc Afrique Éco. Rebonjour Dalila.
Rebonjour.
Et on retrouve également le dernier auditeur de la première partie, François. Rebonjour François.
Bonjour Johan.
Alors, vous êtes donc à Yaoundé. On a répondu à votre première partie de la question concernant donc le limogeage du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Vous aviez une deuxième question. Quelle était votre deuxième question?
La deuxième question concernait justement pourquoi le poste de gouverneur était apparemment réservé au Gabon, parce que les deux présidents étaient gabonais et dans les coulisses, on aurait dit que le prochain serait également gabonais. Donc pourquoi seulement les Gabonais pour ce poste de gouverneur de la BEAC?
Très bonne question, Dalila Beritan. Effectivement, c'est un poste qui a toujours été réservé à un Gabonais.
Oui, alors comme le dit François, dans les coulisses, alors j'aime beaucoup l'expression, et c'est vrai qu'à Libreville, on laisse déjà courir les noms de plusieurs Gabonais, de plusieurs hauts fonctionnaires gabonais, d'anciens ministres ou d'actuel ministre pour remplacer Jean-Félix Mamalepo à la tête donc de la Banque centrale, accréditant l'idée donc que la rotation n'est pas pour maintenant. Alors il faut dire qu'il y a un principe qui s'appelle le principe de Fort Lamy. Alors Fort Lamy, c'est l'ancien nom de la capitale du Tchad, N'Djamena. Ce principe selon lequel trois pays, le Gabon, le Congo et le Tchad, sont au gouvernement de la Banque centrale. Alors ce principe, a priori, au cours de ce 8e sommet de la CEMAC, est resté intact. Je dis a priori parce qu'on ne sommes pas au bout peut-être de nos surprises. Nous verrons bien si le Cameroun qui a pris maintenant la présidence de la CEMAC pendant un an reviendra ou non sur ce principe de Fort Lamy. Alors c'est vrai que peut-être qu'à Libreville on craignait que le ralliement de Yaoundé à l'idée de tourner à la tête de la Banque centrale puisse se faire. Il fallait donc trouver ce fameux compromis. Donc on a limogé Mamalepo et en principe, mais ça nous verrons bien dans l'avenir, en principe donc c'est effectivement un Gabonais qui restera à la tête de la Banque centrale, mais il faut quand même souligner que la Guinée équatoriale, qui est l'un des pays de la CEMAC, est maintenant devenu un riche Eldorado pétrolier et revendique déjà depuis plusieurs années des pouvoirs politiques, puisque le pouvoir financier est là, puisque la Guinée équatoriale fournit 60% des dépôts et 40% des réserves de la Banque centrale. Donc elle aimerait également que une meilleure répartition des pouvoirs au sein de la CEMAC et également de la Banque des États d'Afrique centrale.
Merci beaucoup Dalila Beritan. François, bonne journée, et vous vous êtes fait d'une certaine façon le porte-parole de plusieurs auditeurs, puisque ces questions sont revenues beaucoup ces derniers jours au standard de l'émission. Merci à tous les deux. Place au débat. Vous réagissez ce matin à cette journée de commémoration, journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. 01 53 92 64 40. Christian, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne, Christian.
Oui, c'est ça.
Nous vous écoutons alors concernant cette journée de commémoration.
Bien. Et ce que je voulais quand même souligner, c'est tout simplement parce que ça fait 4 siècles qu'il y a eu l'esclavage. Et malheureusement, c'est maintenant qu'on y pense. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Vous dites que c'est maintenant qu'on y pense. Je préciserai quand même que c'est la deuxième année consécutive que la France commémore justement l'abolition de la traite négrière et l'esclavage.
Oui, bien sûr. Donc, mais néanmoins, il y a quand même eu 100 millions d'hommes et de femmes qui sont partis, qu'on a envoyés pour travailler comme esclaves dans le Nouveau Monde. Et ça a vidé ce continent de ses bras qui peuvent peut-être faire quelque chose. Parce que quand on voit l'état du continent aujourd'hui, on voit qu'il y a eu quand même un problème qui est quelque chose de très important qui s'est passé.
Ceci étant dit, et c'est important ce que vous dites tout de même, Christian, puisqu'à vous entendre, on a le sentiment que 150 ans, plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a encore des séquelles.
Oui, Bien sûr. Et oui, justement, c'est là où je voulais en venir, que le tout, ce n'est pas de commémorer, mais aujourd'hui encore, sur le continent africain où l'esclavage a sévi, on voit encore qu'il y a quand même dans la plupart des pays d'Afrique, oui, de l'esclavage, que ça soit en Mauritanie. Je peux même lier le problème du Darfour à l'esclavage, hein, moderne, qui se passe. Et les dirigeants qui sont là depuis à peu près 40-50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire barrage à tout ça? On n'en a pas vu.
Bon, puisqu'on parle des séquelles et des conséquences, est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, dans les rapports Nord-Sud, il y a encore quelque chose qui nous lie à cette période?
Ah oui, bien sûr, parce que les défendants des esclavagistes, qui sont ceux qui vivent aujourd'hui dans les pays occidentaux, dans leur tête, ils considèrent encore au jour d'aujourd'hui que il y a un peuple qui doit être esclave et qui doit rester esclave. Ça, c'est évident. Quand on voit les relations Nord-Sud, on n'a pas besoin de réfléchir trop pour savoir que ces relations sont cachées de cet élan-là. Mais le tout n'est pas de faire le devoir de mémoire, mais c'est d'arrêter ce qui se passe encore aujourd'hui. Moi, je veux bien, on peut tout le temps faire des monuments, faire des devoirs de mémoire, mais il faut... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui?
Bien sûr, il faut penser à ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, Jacques Chirac l'a rappelé hier lors de son dernier Conseil des ministres. Mais en même temps, c'est important, ce travail de mémoire. Il y a très peu de gens qui connaissent qui connaissent cette partie de l'histoire de l'humanité.
Mais bien sûr, si on pose la question aux jeunes Français, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils savent qu'il y a eu quand même plus de 100 millions d'individus qu'on a enlevés, qu'on a vendus, etc.? Ils ne savent pas, ça n'a pas été fait.
Ouais. 100 millions pour la traite transatlantique. Transatlantique.
Transatlantique.
Vous restez en ligne, Christian. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a pas mal de réactions qui arrivent maintenant au standard. Boubelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, au Mali.
Oui.
Vous êtes d'ailleurs nombreux, à nous appeler de Bamako ce matin pour réagir à ce sujet. Allez-y, Boubelle.
Oui, non, je voulais noter seulement, Juan, aujourd'hui, que la commémoration de l'esclavage se passe seulement en France. Ça se passe seulement en France, et il faudrait qu'on fasse la différence entre la traite des Noirs, qui est fêté aujourd'hui, la fin de la traite des Noirs, et de l'esclavage aujourd'hui qui se passe dans des pays comme la Mauritanie, qui sont même en train de prendre des décisions pour arrêter cela. Mais aujourd'hui, il faut, les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit les jeunes français ou les jeunes africains, ne savent pas à l'école c'est quoi l'esclavage, ils ne savent pas ce que c'est que la traite des Noirs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une commémoration qui se fait en France, mais la majorité des Africains sont en train de... On est dans une vie moderne aujourd'hui et on n'a pas le temps de s'apitoyer sur ce pan de l'histoire qui reste dans nos mémoires.
Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui se désintéresse finalement de cette période? L'Afrique est indifférente?
L'Afrique indifférente, c'est trop dit.
En même temps, quand je dis l'Afrique, je généralise aussi, mais c'est en tout cas ce qui se dégage en vous écoutant.
Indifférente, c'est trop dire, parce que aujourd'hui, on n'y pense pas. Moi, personnellement, je n'y pense pas quand je me réveille le matin, mais seulement quand il y a des révoltes, parce que au niveau des expulsions en Europe, ou quand il y a des problèmes entre les blancs et les noirs, on pense à l'esclavage. Aujourd'hui, quand on voit aux États-Unis Barack Obama qui est candidat au présidentiel, c'est parce qu'il y a un candidat noir qu'on parle de l'esclavage. Donc c'est devenu un fait banal pour les uns et les autres, mais seulement quand il y a des révoltes, quand il y a des expulsions, quand il y a des faits où un noir est mis en avant, on fait appel à l'esclavage.
Ouais.
Aujourd'hui, à quoi ça sert à la France de faire une journée commémorative de l'esclavage alors que ces noirs qu'on est en train de magnifier, ces noirs on met des stèles, alors que demain on va renvoyer ces mêmes noirs au nom de la protection de la patrie. À quoi ça sert à la France de le faire aujourd'hui?
Boubelle, merci de cette vision, ce regard de Bamako sur notamment un peu la société française. Bonne journée sur place. Merci Christian, vous étiez en région parisienne. 01 53 92 64 40. Franck, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
À Paris, nous vous écoutons.
Bon, cette commémoration, je la trouve partielle. Enfin, comme dit Pascal Bruckner là, dans son livre La tyrannie de la repentance, des traites, en fait, il faut en compter trois. Il y a la traite transatlantique, qui, selon l'africaniste Bernard Lugan, dans son livre God Bless Africa, a fait en gros peut-être de 12 à 14 millions, déporté 12 à 14 millions de Noirs. La traite intra-africaine, inter-africaine, qui existe depuis très longtemps, par exemple le roi du Dahomey avait pour sa, entre guillemets, consommation interne, pratiquait l'esclavage, et aussi vendait aux Portugais et aux Anglais notamment, et puis aussi la traite arabo-musulmane, qui par Tombouctou ou alors par l'île de Zanzibar, avec des boutres qui amenaient leur cargaison de bois d'ébène vers l'Arabie, le golfe Persique, bon, qui elle est estimée à peu près 18 millions de malheureux.
En même temps, pour ces trois traites, c'est vrai que c'est difficile de donner des chiffres, c'est plus des estimations, les historiens entre eux ne sont pas d'accord.
J'ai entendu tout à l'heure 100 millions d'individus.
Oui.
Bon, alors, il faut aussi après repasser les proportions, ce qui est effectivement ça ne retire rien à l'ignominie et à la responsabilité de l'Occident dans ce qui s'est passé, et il est sain en fait que la vérité soit établie, mais pas une vérité à sens unique, il faut une vérité d'ensemble, et c'est pas neutre que ce soit enseigné, il faut que ce soit enseigné correctement. Pour pas qu'il y ait en quelque sorte une culture du ressentiment. Et c'est important pour la cohésion nationale aujourd'hui. C'est pas neutre, pourquoi ? Si certains, à la lumière, enfin vous allez dire que j'étends, mais à la lumière de ce qui a pu se passer dans les banlieues où certains, je dis bien certains des jeunes pensaient qu'ils étaient fondés à avoir un comportement violent en estimant que leurs ancêtres avaient été colonisés, mis en esclave au Jokuokest. Par exemple, le jeune Beurre, est-il certain qu'un de ses ancêtres n'était pas pirate barbaresque qui enlevait des Provençaux sur les côtes de Provence?
Ouais, pour que les choses soient claires, Franck, simplement, malheureusement, on est un peu pris par le temps. On a que 20 minutes pour un sujet aussi grave et important. Voilà. Ça veut dire quoi? Que les pays africains, les pays arabes ont leur part de responsabilité?
Bénin, en l'an 2000, le Bénin a exprimé ses regrets. Puisque le roi du Dahomey autrefois, enfin c'était un royaume puissant qui tirait une partie de sa richesse,
oui,
il y avait des peuples dominés, des peuples... Bon, les Africains ont été à la fois victimes et acteurs malheureux de cette histoire, de cette tragédie.
Mais acteurs peut-être malgré eux.
Bah, pour certains malgré eux, pour les peuples asservis malgré eux, et puis pour les peuples dominateurs, complètement, voilà.
Alors,
le royaume du Dahomey, c'était une marchandise.
Hein. Effectivement, ça a été un des gros pourvoyeurs d'esclaves lors de la traite négrière. Franck, reste en ligne, puisque je pense que vous allez en débattre avec Sadio, qui est à Bamako, et qui souhaite justement nous interpeller sur ce point. Sadio, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
J'aimerais axer mon intervention sur la complicité, ce dont vient de parler mon prédécesseur tout de suite.
Oui.
Et c'est quelque chose qui fait mal quand on parle de complicité des Africains dans la traite. Comment peut-on parler de complicité lorsque un fusil à joue, on vient vous réveiller alors que vous n'avez même pas un gourdin pour vous défendre et piller votre continent? Et qu'en plus, cela nous a tellement coûté que si de part et d'autre on a pu garder des cultures vestimentaires, culinaires ou architecturales, qu'en est-il de notre médecine?
De notre, pardon?
Qu'en est-il de notre médecine?
De notre médecine?
Notre médecine, la santé,
le
mode de fonctionnement de la santé, qui était efficace, je le suppose, à l'époque, parce que le Nouveau Monde, quand les esclavagistes sont arrivés au Nouveau Monde, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu, ils se sont tournés vers l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas trouvé de bras assez valides pour pouvoir faire le travail sur place. Ils sont venus trouver des Africains dont ils ont trouvé la force nécessaire, la santé nécessaire. Alors, en dehors de ça, nous, ici, dans le Mandé, à quelques 52 kilomètres de Bamako, nous avions au 13e siècle le Charte des droits de l'homme. Il y a eu la déclaration du Charte des droits de l'homme à Sibi. C'était antérieur à celui actuel et autant universel que celui actuel. Nous avions une journée de la femme à Kouroukafouga, pas très loin de Bamako encore, qui donnait toute sa place à la femme à cette époque. Et c'est des choses qui, avec la colonisation et l'esclavage justement, ont été décapitées, décryptées parce que
Sadio,
les hommes n'avaient plus leur pouvoir politique. Ils se sont concentrés sur les pouvoirs familiales, religieux et ceci et cela, ce qui a contribué à déconfigurer nos sociétés. Et ce liage, et ce gaspillage, cette complicité. Je l'entends encore aujourd'hui. L'année dernière, lorsque Sarkozy vient à Bamako, qu'il se permette de dire, lorsque je lui ai dit que la France qui ne produit pas de café, quand je rentre dans un supermarché, je vois écrit Café de France, il dit que les Africains sont complices et que la France n'avait pas économiquement besoin de l'Afrique. Mmh. Et c'est ce même Sarkozy qui s'acoquine avec Bolloré, qui est...
Non, attendez, non, on ne mélange pas tout. Non, Sadio, s'il vous plaît. Sadio, merci, je vous interromps. On ne va pas tout mélanger, ce n'est pas de la censure. Si vous voulez, on peut même parler demain des liens entre Nicolas Sarkozy et M. Bolloré. Mais là, on focalise vraiment sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Je voudrais qu'on prenne peut-être Pierre-Ange, qui patiente. Je crois qu'il appelle... D'où appelle-t-il?
Oui.
De Cayenne.
J'appelle de Cayenne.
Bonjour Pierre-Ange, nous vous écoutons.
Bonjour. Oui, moi j'aimerais soulever un point qui est très méconnu. De l'esclavage. Mmh. Et j'espère que la journée de commémoration servira à mettre au jour ce genre de... Enfin, c'est pas un détail, mais c'est très important.
Allez-y.
Ça a l'air d'être un détail, mais pour moi, c'est énorme. Mmh. Il s'agit de faire rappeler que les Noirs africains n'ont pas été les seuls mis en esclavage en Amérique du Sud. Que beaucoup d'Amérindiens se sont retrouvés pris comme esclaves et comme travailleurs forcés. Et que ça, on l'ignore complètement. Mmh.
Effectivement. D'où justement la loi Taubira adoptée il y a tout juste 6 ans, qui insiste sur la nécessité pour les manuels scolaires d'accorder une place beaucoup plus importante à cette période de l'histoire, parce qu'effectivement, les Amérindiens, cette période pour eux, enfin, est peu connue du grand public. On connaît un peu plus évidemment aussi la traite négrière transatlantique. Donc vous pensez qu'il est important d'insister sur ce point?
Absolument, parce que les Amérindiens ont été les premières victimes de l'esclavage, je veux dire chronologiquement parlant. D'abord, les Européens, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour exploiter les terres du Nouveau Monde? Ils ont essayé de prendre des Amérindiens et de les mettre en esclavage. Bon, ils ont vu que ça ne marchait pas autant qu'ils le souhaitaient. Alors ils se sont tournés vers les Africains. Ouais. Mais dans beaucoup de pays, les Africains n'ont pas été employés majoritairement comme esclaves. Je pense à la Bolivie, à l'Argentine. La proportion de Noirs est faible. Il y en a eu. Mais elle est plus faible que la proportion d'Amérindiens qui se sont retrouvés comme travailleurs forcés. Et même si certaines voix se sont très tôt élevées contre l'esclavage des Amérindiens en disant que non, que les Amérindiens devaient rester libres, on sait très bien que dans la pratique, tout ce qui tombait sous la main des Européens était susceptible de devenir esclave.
Ouais. Pierre-Ange, nous rejoint à l'instant... Qui ça déjà? Jocelyn. Jocelyn, vous êtes en Guadeloupe?
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, voilà, bon, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai ma vision sur la commémoration. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la commémoration, il y a après. C'est-à-dire que les petits-fils d'esclaves, et qu'est-ce qu'ils deviennent dans la société actuelle? C'est bien toute cette agitation, bon, des pots de gerbe, tout ça, mais après, il faut savoir comment ils sont vus dans cette société, comment ils sont intégrés. Mm-hmm. Et moi, je dis, bon, il faut, comment dirais-je, mettre les moyens pour que les Français lambda puissent connaître l'histoire.
Ouais. Mais quand vous dites, Jocelyn, il faut mettre les moyens, à quoi pensez-vous?
C'est-à-dire...
Parce qu'a priori, cette journée ne suffit pas, elle est insuffisante.
Oui, elle est insuffisante. C'est-à-dire, au niveau des manuels scolaires, mm-hmm. il faut aller en profondeur de cette histoire. Il faut que les entiers aussi s'approprient de leur histoire. Et je dis, bon, s'il y a eu cette journée que l'État français nous a donnée, c'est grâce aussi aux intellectuels, entiers, aux associations, style Taubira aussi, qui a fait des choses pour que, bon...
Elle est notamment à l'origine de la loi qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette journée de commémoration. Franck, je suis désolé, on arrive à la fin de cette émission, mais si vous êtes un lève-tôt ou un couche-tard, puisque vous êtes en Guadeloupe, habituel, on peut vous rappeler demain pour prolonger le débat dans la libre antenne, puisque vous le savez, le vendredi, vous réagissez à l'actualité de votre choix. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant. 01 53 92 64 40. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous de votre fidélité et à demain.